Dans ce journal, on suit la vague qui nous y va alors que la course est endeuillée par le décès d'un rameur. On fait aussi un tour au tribunal avec une affaire de corruption avant de parler Coupe de France de football. Et ce journal, c'est avec Valdemar Delage. Bonjour Valdemar.
Bonjour Kevin, bonjour à toutes et à tous.
Le monde du VA est en deuil.
Oui, victime d'un malaise hier, quelques minutes seulement après le lancement de la première étape de la Vaikinui. Kevin Kouider est malheureusement décédé vers 1h ce matin au CHPF. Une nouvelle qui vient noircir cette 30e édition. On notera aussi les vasanes ce matin du vétéran René Aveipi qui se serait présenté fiévreux aux secouristes. Alors la course continue, mais cette édition a décidément un goût particulier. Ce matin, la deuxième étape entre Rayatea et Taha a d'ailleurs été lancé avec un peu de retard, et aussi Sampireva, les équipiers de Kevin ayant préféré déclarer forfait. Ils sont d'ailleurs en route pour Tahiti. Steve Teixeira, son demi-frère, salue la ténacité dont il a fait preuve avant de succomber.
Je suis battu jusqu'à 1h du matin, alors que les premières animations ont commencé à 9h, quoi. Donc à 8h de l'après-midi, presque 15h. À se battre pour s'y revenir, quoi. Tout à fait lui, quoi. Son mental de bâton, hein. Personne n'oubliera de venir, malgré ces moments, en arrivant dommage, quoi. Et que tout le monde se souvient de lui comme un bâton, quoi.
Agent technique à l'aviation civile, mais aussi sapeur-pompier volontaire depuis janvier 2001 à la caserne de Pirée, Kevin Kouider avait réussi brillamment les épreuves physiques. Décrit par ses collègues comme quelqu'un de dévoué, professionnel, il était très apprécié. Les obsèques du Haïto s'organisent doucement. Selon ses proches, son corps est exposé au Fareu Muira du tombeau du roi à Aroué depuis la fin de matinée. Et une première veillée est prévue dès 15h au même endroit. Sa dépouille sera ensuite rapatriée sur son île de Bora Bora.
On retrouvera tous les résultats de la Vaikinui en fin de journal, mais en attendant, on file à Paris.
Oui, Paris, où les membres du gouvernement se succèdent. Fin octobre, la vice-présidente Eliane Tebahitoua avait multiplié les rencontres avec des artistes, des documentaristes, des responsables calédoniens, des étudiants et même Emmanuel Macron. Autres ministres et autres programmes bien remplis en ce moment même en métropole, c'est pour Naïma Temari, la chargée de la jeunesse et des sports. Elle a notamment échangé avec son homologue national Amélie Oudéa-Castéra ou encore avec la secrétaire général du comité olympique sportif français. Des rencontres pour parler notamment de la reconnaissance des diplômes sportifs polynésiens, mais aussi de l'aide de l'État au développement du sport au Fénois ou encore de l'héritage des Jeux olympiques de Tehaupo. Beaucoup de promesses et des deux côtés, mais un grand absent des communiqués, la très critiquée Tour des Juges. Le sort de la nouvelle structure en métal, déjà payée et prête à être installée, n'est visiblement pas réglé. La ministre tenterait à Paris de faire avancer des solutions alternatives avec le comité d'organisation, notamment la certification dérogatoire de l'ancienne tour en bois.
Et retour au Fénois où les cigarettes électroniques pourraient être taxées davantage.
C'est une initiative conjointe de Tevaiti Pomare en charge de la fiscalité et de son collègue de la santé Cédric Mercadal. En conseil des ministres, les deux responsables ont proposé de créer un groupe de travail destiné à engager la révision de la réglementation sur le tabac et sa fiscalité. L'idée semble avoir plu puisque le groupe doit se réunir toutes les semaines pour faire naître rapidement des réformes de fond pour lutter contre le tabagisme et pas seulement pour les fumeurs et rouleurs traditionnels, puisque la cigarette électronique est aussi dans le viseur du gouvernement. Il s'agira de mieux intégrer le vapotage dans la réglementation, de revoir les règles d'étiquetage et de publicité, de mieux contrôler l'entrée sur le territoire des illiquides, ou encore de réviser la liste des lieux où la cigarette électronique est autorisée, et bien sûr d'envisager sa fiscalisation.
La justice désormais, on regarde du côté de la cour d'appel.
Oui, rappelez-vous de ce gardien de prison de Tatoutou qui avait été condamné à 4 ans, dont un de sursis pour corruption passive fin septembre en comparution immédiate. Eh bien, il demandait sa remise en liberté en attendant l'audience du 7 décembre sur le fond de l'affaire. Alors l'homme, bien noté par sa hiérarchie, avait été filmé par un détenu qui l'avait dénoncé. Pour justifier de sa demande de remise en liberté, il a fait valoir son besoin de chercher du travail et de voir ses enfants alors qu'il a écopé d'une interdiction à vie de travailler dans le secteur public. L'avocat général a souligné qu'un homme qui gagnait 500 000 francs par mois n'aurait pas dû trahir sa mission et la grande famille judiciaire. Il a requis le maintien en détention et l'a obtenu.
Et on poursuit avec ce portrait.
Oui, celui de Lisa Roca, une enfant Fahamou revenue au Fénois. Elle a aujourd'hui 27 ans et découvre réellement la Polynésie depuis son retour. Alors pour comprendre son histoire, retour en arrière. Adoptée à sa naissance, elle a grandi à Grenoble dans une famille qui avait adopté d'autres enfants en France. 5 ans après, ses parents adoptent aussi une de ses sœurs biologiques et respectueux de la tradition, ils ont gardé le contact avec la famille biologique de leur fille. Après son bac, Lisa entreprend des études qui l'attirent, un master 2 en maîtrise d'ouvrage et du bâti. Mais mais elle pense qu'il est important que son compagnon connaisse ses origines. Et l'année dernière, elle revient à Tahiti pour la première fois depuis 15 ans. Sa famille biologique est à l'aéroport et son accent français et ses études suscitent une certaine curiosité parmi les Polynésiens. Les gens l'interpellent et lui disent de revenir travailler ici.
Comme ça, spontanément, des gens qui échangent dans la rue, qui t'arrêtent, qui t'entendent et qui te demandent de revenir travailler au Fénois. Et quand tu leur expliques ton parcours et que tu leur as dit j'ai fini un master 2 à la faculté, ils sont fiers de ça et qui me disent « Mais reviens, je les connaissais pas, mais reviens, viens ici, viens travailler, il y a du travail pour toi ici. » C'est en rentrant en métropole en fait qu'on s'aperçoit qu'on n'est pas à la bonne place quoi.
Et de retour en France, Lisa envoie rapidement des candidatures spontanées. Plusieurs services la rappellent, ravis de son statut, et on lui propose un poste de chargée de projet à la direction de l'agriculture. En août dernier, elle décide de faire le grand saut avec son compagnon et revient au moins pour quelques années. Elle s'est installée à peine à quelques minutes du quartier familial où réside sa famille biologique. Et Lisa a pris l'habitude deux fois par mois de rendre visite à sa grand-mère. Elle souhaite désormais créer du lien et créer une structure pour aider les Polynésiens qui ont grandi en France.
J'aimerais monter un collectif ici sur place. Alors c'est plus à destination quand même hein, des Polynésiens qui sont encore en métropole, mais j'aimerais rassembler des personnes qui ont un message positif comme le mien à faire passer. L'adoption, je n'ai pas de tabou avec ça. Je trouve qu'on a beaucoup de chance d'avoir été élevé en métropole. Et en fait, c'est pas le ressenti que tous les enfants polynésiens ont. Il y a des Polynésiens en métropole, à Grenoble, que j'ai connu. C'est 90% de ces Polynésiens pour lesquels ça se passe très mal, autant pour les parents que pour les enfants.
Et un groupe Facebook Lisa Fahamou a été créé. On peut la joindre à l'adresse suivante projetfahamou@gmail.com. Lisa Roca qui répondait à Caroline Perdri.
Football désormais, Piré se déplacera dans l'est de la métropole.
Oui, la Piré qui a gagné la Coupe de Polynésie est qualifiée pour le 7e tour de la Coupe de France et le tirage au sort a eu lieu hier en métropole. Les Tahitiens se déplaceront donc à Saint-Mesmin, un village près de Troyes dans la région Grand Est. Ils affronteront l'équipe locale, le FC Saint-Mézieri. Ce sera le 19 novembre. Il s'agit d'une équipe de Régional 1, la 6e division française. Un tirage plutôt favorable pour Piré qui était sous la menace d'une rencontre face à des équipes professionnelles comme Auxerre, Troyes ou le Paris FC. A noter que le FC Saint-Mézieri a la particularité de compter un joueur tahitien. Il s'agit du milieu offensif Paolo Osner à 21 ans. Il évolue en métropole depuis 5 ans et a déjà marqué 4 buts cette saison. A noter que lors de sa dernière participation en Coupe de France, Piélé n'avait pas réussi à passer ce 7e tour. C'était en 2015 contre une équipe bretonne.
Et comme promis en début de journal, on revient au VAA. C'est l'heure de notre page spéciale à Vaikenui.
Le MAG Hawaii Kiniwi va à 2023 avec la direction polynésienne des affaires maritimes et le bateau Apetri Express.
Et nous sommes donc sur ce plateau avec Alex de VAA News qui commente pour nous en direct cette 30e édition de la Hawaii Kiniwi. Une édition très disputée dans la catégorie reine des seniors. On l'a déjà vu hier avec la victoire sur le fil de Shelva entre Wahine et Raiatea. La deuxième étape ce matin était plus courte, 22 km, un sprint dans le lagon. Et pourtant Alex, on a vu beaucoup de vagues, beaucoup de surf sur ce parcours.
Oui, bah écoute, traditionnellement, cette deuxième étape qui est en lagon et qu'on appelle le sprint, on peut penser que bah, on est dans le lagon, donc ça va être calme. Mais en fait, il n'en est rien du tout parce que bah, Hawaii Kiniwi va, c'est aussi une armada de bateaux suiveurs. Chaque pirogue a son propre bateau, hein, accompagnateur. Et puis, il y a tous les spectateurs en fait, hein, de Raiatea et Taha qui viennent se joindre à la fête. Ce qui fait que sur le lagon, on se retrouve véritablement avec pas loin de 300 bateaux. Et comme bah, chacun veut pouvoir profiter de ce spectacle que nous offrent les rameurs. La plupart des bateaux suiveurs se portent en tête de course, ce qui génère de grosses ondulations dans le lagon, notamment aux endroits où l'eau est moins profonde. Donc on se retrouve parfois avec des creux de plus de 50-60 cm. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui et on a pu voir que à ce jeu-là, ce sont les meilleurs barreurs qui arrivent à tirer leur épingle du jeu. Alors si certains crient entre guillemets au scandale en disant ouais c'est une course volée, il suffit d'aller dans les vagues de bateaux pour se reposer, mais en fait ces vagues là elles sont générées par les bateaux et sont pour tous les rameurs, donc critiquer telle ou telle équipe c'est toujours compliqué puisque tout le monde peut en profiter et c'est ce qu'on a vu en tout cas aujourd'hui où arrivé après l'entonnoir, donc la jonction des deux lagons Raiatea et Taha, et bien les quatre grosses cylindrées que sont Shelva'a, Hinaraurea, Team Huahine et Air Tahiti, ont fait ce pari-là, c'est-à-dire d'aller chercher ces vagues de bateaux. L'objectif aussi, c'est stratégique, hein, c'est de pouvoir avancer en fournissant un minimum d'efforts pour se réserver sur le dernier tronçon du parcours, qui est à peu près de 4-5 km, où là, on se retrouve avec un vent de face et des conditions totalement différentes, avec une légère houle de face, avec un courant également de travers. Le pari, c'est ça, c'est de pouvoir surfer pendant les deux premiers tiers, économiser au maximum ses forces pour finir de manière très forte, et c'est ce qu'a fait Shell tout au long de cette course.
Voilà, justement, à la fin, même résultat qu'hier, c'est Shelva qui gagne. Cette fois, c'est plié, ou alors il peut encore se passer quelque chose sur cette 30e édition?
Oui, on a tendance à croire que des équipes comme Air Tahiti, Hinaraurea ou Team Huahine, qui prennent des départs canons, qui posent de gros problèmes à Shell. On a vu Shell quand même pendant plus de deux tiers de la course qui était en troisième position, hein, à plus de 50 mètres du 50, parfois 100 mètres du leader. On croit qu'on se dit, ah, ça y est, Shell est en difficulté. Et puis en fait, à l'arrivée, oui, c'est Shell qui gagne. Shell qui, dans ce dernier tronçon justement, a enclenché le turbo. Ils ont lancé série sur série. Le coup de rame était extrêmement élevé. Ils profitaient de la moindre ondulation pour pouvoir partir, creuser l'écart avec les poursuivants. Et c'est ce qui s'est passé en fait. Donc au final, Shelva'a s'adjuge donc cette deuxième étape en 1h50 minutes et 40 secondes, à 14 secondes seulement du record. On a cru pendant un moment qu'ils allaient pouvoir battre ce record qui date de 2013. Et c'était le team EDTVA en 2013 qui avait établi un record à 1h50 minutes et 26 secondes. Et bien là, Shell rate ce pari à 14 secondes seulement. C'est pour vous dire à quel point ça a été extrêmement rapide encore aujourd'hui. Suivent derrière Hinaraurea à 22 secondes. Troisième, Team Huahine à 54 secondes du leader. Quatrième, le Team OPT qui accuse un retard d'une minute 13 sur cette étape. Air Tahiti arrive en cinquième position à 1 minute 33. Poporatehou et Mamou à 1 minute 43 secondes. Tumarava qui a très bien terminé encore cette étape à la 7e place en 1 minute 45 derrière Shell.